c'était très symbolique. Avant, c'était libre. Autre chose, mais ça a même été au départ, c'était une relique en fait. Elle l'aurait revendue. On dit qu'elle aurait revendu cette médaille aux enchères quelques semaines plus tard au bénéfice de la résistance.
Voilà, pour remplir les caisses, de la résistance. Alors, voilà, je vous propose d'écouter un autre morceau qui s'appelle « Mon cœur est un oiseau des îles ». Alors, elle va sillonner toute l'Afrique du Nord et le Proche-Orient en jeep. Elle va faire plus de 3000 km comme ça. À la suite d'un gala donné à Alger en 1944 au bénéfice de l'entraide de l'aviation, donc elle va être officiellement engagée dans l'armée de l'air comme officier de propagande avec le grade de sous-lieutenant. Alors cet engagement dans l'armée de l'air est à mettre en relation avec le fait qu'elle avait passé quand même son brevet de pilote en 1938. Elle signe une déclaration d'abandon de sa solde au profit de l'hôpital d'Alger, avec une autorisation du général Bousco de revêtir une tenue bourgeoise. Elle apparaît pendant cette période aussi bien en uniforme qu'en tenue de scène. Voilà. Alors, après la libération, elle poursuit ses activités pour la Croix-Rouge. Elle chante pour les soldats et les résistants près du front, suivant avec ses musiciens la progression de la première armée française. Et elle sera démobilisée en 1945. Alors, hein, ses activités lui vaudront la médaille de la résistance française avec Rosette. Et puis, et le 19 août 61, dans son château des Milantes, elle reçoit aussi les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre, avec la palme, qu'elle reçoit des mains du général Martial Valin, à la suite de l'intervention du ministre de la Défense, Jacques Chaban-Delmas.
Alors, c'est un peu une touche à tout, on va dire, avec succès.
Hein, elle est sur tous les fronts, c'est le cas de le dire.
Donc, on va parler d'un registre très différent. Elle devient ambassadrice de la haute couture française, notamment après la Seconde Guerre mondiale. La France est très pauvre, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour promouvoir la haute couture, et Joséphine Baker était très amie avec Christian Dior, Pierre Balmain, et donc il l'habillait, et elle portait les merveilleuses robes... ambassadrice de la haute couture.
Alors, elle lutte aussi contre le racisme et l'émancipation des Noirs. Alors, elle va retourner aux États-Unis en 1947 et aussi en 1951 pour tenter de renouer avec le succès. Mais... ça va être plutôt un échec, hein. Elle va faire un passage dans les Ziegfelds Follies et elle n'obtient pas le succès qu'elle espérait. Elle sera victime aussi de ségrégation raciale, hein, notamment lors de l'incident du Stork Club, hein, où elle est rentrée, on l'a laissée rentrer parce qu'elle était connue, mais on n'a pas voulu la servir parce qu'elle était noire. Voilà. Donc... Et du coup, elle accuse un journaliste, de pas l'avoir défendu. Et donc celui-ci, il est agacé, qu'on lui reproche ça. Donc il va décider de briser sa réputation en la traitant de communiste et d'ennemis du peuple noir. Voilà. Elle met alors sa grande popularité en service de la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs, en particulier en soutenant le mouvement américain des droits civiques. En 55, par exemple, elle amplifie en Europe aussi la vague d'indignation soulevée par le meurtre au Mississippi, d'un jeune afro-américain, suivi de l'acquittement des deux assassins, puis de leurs aveux cyniques après le jugement, une fois assurés de leur impunité. Alors, dans les années 60, elle milite aussi contre la politique d'apartheid instaurée en Afrique du Sud et elle va retourner aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques du pasteur Martin Luther King. Et elle participe à la marche sur Washington, où il y avait quand même 250 000 personnes, pour l'emploi et la liberté organisée, qui a été organisée donc, par Martin Luther King. Et donc, vous savez, ce fameux discours de Martin Luther King où il dire « I have a dream ». Alors, elle va prononcer un discours aussi, vêtue de son ancien uniforme de l'armée de l'air française et avec toutes ses médailles de résistante sur la poitrine. Voilà. Donc, c'est là quand même la seule femme à avoir pris la parole à ce moment-là. Alors, en 1938, elle s'est également engagée dans l'action de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui deviendra la LIGRA en 80. Ce rapprochement traduit sa sensibilité au sort des Juifs, notamment son mari à l'époque, qui était confronté à un antisémitisme croissant. Alors, là, on va passer dans une petite chanson plus exotique. Alors... que tout le monde connaît, et elle a été interprétée par plein de personnes différentes. Allez.
C'est moi qui suis sa petite, son anamite. Je suis vivre, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiquinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pieu, au pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu, y a même l'amour toujours c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamique. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanquiqui, sa tanquinoise. D'autres lui font les douze yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Qui suis sa petite, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
On peut peut-être préciser aussi que la carrière de Joséphine Baker était très très liée au mouvement de la Renaissance de Harlem. Elle fut une militante acharnée. C'était d'abord un mouvement littéraire qui a pris sa source à Harlem, mouvement de renouveau de la culture afro-américaine dans l'entre-deux-guerres. Et ce mouvement prenait l'émancipation des Noirs américains confrontés à la ségrégation raciale depuis l'abolition de l'esclavage en 1865. Il regroupait des intellectuels et écrivains comme Alain Locke, Marcus Garvey, des mécènes tels que Arthur Schoenberg, surnommé le père de l'histoire noire américaine, des photographes et sculpteurs, ainsi que des musiciens tels Louis Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller. Les lieux emblématiques du mouvement de renaissance de Harlem comptaient le Cotton Club et l'Apollo Theater.
Alors, elle va aller aussi à Cuba. Et puis, elle va faire plusieurs tournées. Hein, et elle est confrontée également au racisme là-bas, hein, quand on lui refuse une chambre d'hôtel, par exemple, à l'Hôtel National. Et elle s'est engagée hein, dans une... a créé une organisation en Amérique latine contre le racisme, proche du couple présidentiel argentin, Juan et Eva Perón. Elle ouvre une antenne à Buenos Aires aussi et cherche à essaimer dans le sous-continent, donc notamment Cuba. Elle est reçue par Batista, mais celui-ci est mis en garde par le FBI et la mafia, et donc il va la traiter avec mépris. Et le fait que des militants anti-Batista assistent à ces shows n'aide pas évidemment à sa situation. Elle est donc de nouveau en tournée à La Havane en 1953. Il va y avoir une manifestation étudiante hein, sur le Madison, violemment réprimée par le régime, et un jeune homme est tué. Sa dépouille est exposée dans le grand amphithéâtre de l'université. Joséphine s'y rend afin d'assister à la veillée funèbre. Et donc, il va y avoir des milliers hein, de manifestants qui sont conduits par Fidel Castro. Alors, Joséphine aurait ensuite décidé hein, d'offrir les bénéfices d'un concert au parti castriste. Et donc, le 18 février, elle est arrêtée par les services des renseignements militaires de Batista, interrogée. Finalement, elle va être relâchée grâce à des diplomates français. Alors, elle est questionnée sur son prétendu communisme. Elle nie, même si le FBI indique qu'elle s'était produite pour la SFIO pendant le Front Populaire et qu'elle avait effectuer des tournées en URSS en 1936. Elle finit sa tournée le même mois au Teatro Campo alors, et elle promet de ne plus revenir à Cuba tant que le régime de Batista ne sera pas tombé.
Alors, en décembre 65, elle retourne à Cuba, en fait, invitée par Castro, qui a pris le pouvoir quelques années plus tôt. D'autres personnalités sont présentes, comme les écrivains Alberto Moravia, Mario Vargas Llosa, et le couple Régis Debray et Elisabeth Burgos. Il se tient alors à La Havane un événement d'importance, un rassemblement de dirigeants du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique latine, la conférence tricontinentale. Cette conférence vise à émanciper ces pays des sphères d'influence soviétique et chinoise. Le FBI, qui dispose d'un dossier sur Josephine Baker à cause de son soutien aux Afro-Américains, pourrait avoir pensé qu'elle y était l'envoyée du général de Gaulle, dans un contexte où la France envisage de faire sortir son pays de l'OTAN. De même, le contre-espionnage cubain cultive des doutes. En réalité, sa présence est, en tout cas c'est ce qu'elle affirme, la poursuite de ses engagements antiracistes. Elle déclare ainsi dans une interview au quotidien Grandma, la tricontinentale, c'est formidable avec ces gens de tous les pays, toutes les langues, toutes les couleurs. C'est une chance inouïe d'avoir un public pareil, toute la race humaine réunie en une seule famille. Oh, c'est beau. Avant le début de la conférence, elle rencontre Fidel Castro, le met en garde sur le fait qu'on va essayer de l'assassiner. On ne sait pas de qui elle tient cette information, mais il est à noter qu'au moment même, des réseaux anti-Castro et des tentatives d'attentats sont neutralisés. Elle se fait remarquer pour son enthousiasme politique, chantant au siège de la délégation du Nord-Vietnam, se faisant acclamer place de la Révolution, jouant au théâtre Garcia Lorca devant Castro. L'une de ses prestations est même diffusée en direct à la télévision cubaine et elle enregistre un disque. On ne l'arrête pas. Avant son départ, Castro l'invite à se rendre à la baie des Cochons où un débarquement soutenu par les États-Unis avait échoué en 1961. Devant les journalistes, elle déclare « Je suis heureuse d'avoir été le témoin du premier grand échec de l'impérialisme américain. »
Oh là là. Et donc elle va quitter l'île de Cuba à la fin du mois. Elle promet de revenir en juillet parce qu'elle est invitée par Castro à passer ses vacances avec ses enfants. Mais là, elle va avoir des problèmes de santé, donc elle est hospitalisée. Et là, donc à Paris, et De Gaulle va lui envoyer une immense gerbe de fleurs. Hein, voilà. Et l'été, elle va retourner à Cuba, elle va retrouver le chef d'État cubain. Et on lui remet un brevet de lieutenant des forces armées révolutionnaires cubaines. Et donc à la mort de Che Guevara, va écrire une lettre de condoléance à Castro. Voilà. Alors, on va passer à un autre sujet qui tenait très à cœur à Josephine Baker. C'est son château des Milandes et sa tribu arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis?
Après une grossesse à l'issue de laquelle Josephine Baker avait accouché d'un enfant mort-né, elle contracte une grave infection postpartum et elle subit l'ablation d'utérus, l'hystérectomie à Casablanca en 1941. Donc elle ne peut plus avoir d'enfant. Avec Joe Bouillon, chef d'orchestre de renom qu'elle épouse en 1947, on compte plus ses conjoints, hein, quand même. En tout cas, elle a eu se marier.
Elle a eu 5 maris.
elle aime se marier.
Et de nombreux amants, hein, mais bon, voilà.
Oui, mais elle se marie quand
voilà,
même.
Voilà, 5 maris officiels. Ouais, ouais.
Elle achète le château des Milandes en Dordogne, qu'elle loue depuis 1937, et où elle vivra jusqu'en 1969. Elle y accueille 12 enfants de toutes origines, des enfants qu'elle a adoptés et qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel. Joseph et Joe Bouillon avaient ce même idéal de fonder un village du monde, une capitale de la fraternité universelle, pour montrer au monde entier que des enfants de nationalités et de religions différentes peuvent vivre ensemble dans la paix. L'amour de Josephine Baker pour les enfants en général était inébranlable, à tel point qu'au retour de ses tournées, elle n'hésitait pas à ramener dans son paradis des Milandes un nouvel enfant en manque d'amour ou dans le besoin. Tous ces enfants formaient donc la fameuse tribu arc-en-ciel, unie pour le pire comme pour le meilleur. Car au départ, il s'agissait surtout du meilleur. Bon, chaque enfant était entouré et choyé par une nurse, habillé comme des petits anges, vivait dans un château rayé, luxe, calme et amour. Et Joséphine a même créé un ramassage scolaire qui bénéficie à ses enfants, mais du coup qu'elle a étendu à ceux du voisinage pour qu'ils aillent à l'école de Castelnau. Mais au château, il y avait quand même un précepteur qui leur enseignait également la culture de leur propre pays. Voilà un petit peu comment ça, ça voilà. s'organisait.
Donc il y avait un parc d'attractions aussi, enfin la ville avait fait
oui,
des
oui,
choses.
Oui,
voilà,
c'était, c'était le grand luxe, c'était très particulier quand même.
Alors on va vous passer une petite interview de Joséphine Baker.
À ma grande joie, que j'étais enfin comme une autre, qu'il n'y avait pas de différence, que j'étais jugée exactement ma propre valeur et pas parce que j'étais moi.
Oui, d'accord.
Vous comprenez ?
Je comprends très bien.
Et de là est développé ce désir de agrandir cette bonheur de se sentir, sentir un être humain, comme tous les êtres humains. Et je me suis demandé comment faire. J'ai vu à droite et à gauche qu'il y avait beaucoup de difficultés de s'entendre. Il y avait beaucoup de conflits.
Oui.
Entre les hommes, de différents pays. Et alors je me suis dit, je vais adopter les enfants. Puisque je n'en ai pas à moi-même, des enfants de différents continents, avec des différentes religions et croyances, oui. pour prouver que l'homme, malgré son couleur, sa couleur, le continent auquel ils viennent, ou même la religion qui a pratiqué leurs parents,
j'ai pas remis le son. Alors, excusez-moi. problème technique. Bon, enfin, bon, il y a les prémices hein, d'une faillite prévisible, et donc qui vont mettre fin à tout ce bonheur, voilà.
Luxueux.
Mais parce que, bon, elle a une tendance à,
beaucoup,
à dépenser beaucoup, mais elle se fait aussi avoir, ouais. voilà, par des artisans, voilà, qui font voilà, qui lui redonnent les factures plusieurs fois, etc. Bon. Donc, elle va avoir des aides. Notamment de la part de Brigitte Bardot pour pouvoir maintenir comment les son château des Milandes, mais bon finalement il va falloir qu'elle lâche l'affaire. Et à ce moment-là, comment c'est la princesse
Grâce de Modeco qui voilà. Amie, en fait, une amie de la chanteuse, hein, qui
parce qu'elle était présente au Stork Club quand elle.
Grâce à Monaco, elle est américaine, artiste comme elle, enfin bon. Donc elle lui avance les fonds nécessaires à l'acquisition d'une grande maison à Roquebrune. Grâce de Monaco invite aussi Joséphine Baker à Monaco pour des spectacles de charité, aidée aussi par la Croix-Rouge qu'elle avait auparavant bien aidée, hein, faut bien dire. Joséphine Baker remonte sur la scène parisienne à l'Olympia en 1968, puis à Belgrade en 1973, au Carnegie Hall. Au Royal Variety Performance, voilà, alors avec enfin, l'accent, hein, au Palladium de Londres en 74. Enfin voilà. Et à Paris, elle fait aussi, elle intervient au Gala du Cirque en 74.
Voilà. Et en 75, hein, pour célébrer ses 50 ans de carrière, elle inaugure donc la rétrospective Joséphine à Bobino. Alors c'est un spectacle qui est repris en ce moment à Paris. Ouais. Là, voilà. Alors bon là, il y a, on voit, hein, il y a il y a Général de Gaulle, qui est le chant du Général de Gaulle. Qui est là, il y a Sophia Loren, il y a Mick Jagger, Mireille Darc, Alain Delon, enfin même Tino Rossi, bien
Jeanne
sûr,
Moreau,
bien
Pierre
sûr,
Balmain.
Voilà, c'est ça. Et bien sûr la princesse Grâce de Monaco. Alors on vous passe juste une petite interview de Joséphine, bien sûr.
Busco no encuentro serio, no siento, yo no sé vivir. Si me faltas tú. Pada, da da, la da, ya da 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 da.
C'est le costume que vous portez pour le final.
Premier final de notre pièce et notre show.
Et les décorations que vous arborez, vous les avez
gagnées sur le champ de bataille.
Quel effet ça fait de remonter sur la scène?
Bien. Agréable, de pouvoir retrouver la famille, La famille pour moi, c'est tout le monde et surtout le public qui m'a fait.
Aïe, bye, aïe, aïe.
Cette pièce raconte votre vie. Est-ce que ça vous fait pas un peu drôle de retrouver sur la scène l'histoire de sa vie?
Non, c'est agréable.
Oui.
Parce qu'au moins, je vois ce qu'on pense de moi pendant mon vivant.
Que devient votre nombreuse famille?
Ils grandissent, ils se marient. J'ai un garçon, un de mes fils, Louis, qui se marie le 31.
Vous avez 10 enfants?
Ben oui, non, 10 garçons et 2 filles.
10, 12?
12, heureusement que les filles ne vous entendent pas.
Ils vont venir vous voir pendant le spectacle?
Non, ils font leurs études.
Vous regrettez?
Que les enfants ne viennent pas? Eh bien, c'est difficile de dire, parce qu'en ce moment, avec mes répétitions, le travail, il est bon qu'ils ne soient pas là. Parce que quand je suis avec mes enfants, j'oublie tout, tout, tout. Il n'y a que mes enfants qui comptent. Et en ce moment, il faut quand même j'ai du calme et tranquillité pour pouvoir me donner entièrement à mon public de Paris.
Bon. À toi.
Bon, désolée d'avoir interrompu ce merveilleux final. Alors du coup là, elle met donc en route ce spectacle. Le public est enthousiaste et le 9 avril 1975, elle retrouve son appartement parisien. Après sa 14e représentation devant une salle enthousiaste, et le lendemain matin, donc le 10 avril, Joséphine Baker est victime d'une attaque cérébrale. Elle fait une hémorragie et elle est transportée dans un coma profond à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et elle meurt le 12 avril à l'âge de 68 ans.
Bah.
Voilà, donc elle n'est pas morte sur scène, mais...
Eh bien, presque.
Presque.
Alors, sa vie, bien sûr, a été marquée hein, par la liberté et l'engagement, et on fait d'elle une icône que Régis Debray a proposé en 2013 de faire entrer au Panthéon pour, dit-il, mettre de la turbulence et du soleil dans cette crypte froide. Oh là là. Alors, soutenue par un collectif monté pour l'occasion, sa demande sera acceptée par le président de la République en juillet 2021. Et c'est donc comme une grande femme à qui la patrie est reconnaissante qu'elle est entrée symboliquement dans le temple des grandes figures de la République. Donc le 30 novembre 2021, le jour anniversaire de sa naturalisation française. Alors, près de 50 ans après sa mort, elle va donc entrer au Panthéon, devenant ainsi la 6e femme et la première femme noire à rejoindre le temple républicain. Voilà, donc une belle fin pour cette femme issue quand même de conditions difficiles. Quoi. Voilà. Bon, alors on a un peu débordé sur notre horaire, mais on avait plein d'autres chansons à vous mettre, hein, sinon, mais bon. Voilà, alors on espère que ça vous aura intéressé. Après ça, il y a plein d'autres émissions qui ont été faites hein, sur Joséphine Baker. Enfin, forcément, la nôtre est mieux, quoi. Voilà. Alors, bien, à très bientôt, dans une prochaine émission.
À bientôt.
Qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle, ces femmes parfaites. De mauvaise vie.
Libérée.
Soumise.
D'esprit.
Fatale.
Tatouée.
Douce.
Savante.
De lettres.
Facile.
Fidèle.
Bonne femme.
Au foyer.
Moderne.
Citoyenne.
De caractère.
Combattante.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elle, de vous,
et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.